Interview.
1h du mois et c'est l'heure de l'interview avec Camille Audergon. Bonjour.
Bonjour.
Camille Audergon, vous êtes directrice artistique du festival Éclat, le festival de la voix au pays de Dieulefi. Ça va avoir lieu, comme je l'ai indiqué, à Dieulefi et ce sera du 2 au 8 septembre 2024. Un festival donc dédié à toutes les voix sous toutes ses déclinaisons. Et pour cela, quelle a été au départ cette volonté de ce festival dédié aux voix ?
Alors, au départ, le festival il a été monté par Harold David et Moïse Hill, hein, qui étaient des co-directeurs. C'était un festival qui était plutôt dédié aux voix variétés françaises traditionnelles et aux voix lyriques. Quand nous, on a récupéré la direction du festival, ils avaient déjà une volonté d'étendre sur la question des voix plurielles. Nous, on a peut-être un petit peu encore élargi les voix qu'on convoque. On fait venir de la voix contée, de la voix parlée, du théâtre, des voix du monde. Voilà, enfin, après, c'est des identités qui sont propres à chaque évolution de structure. Donc nous, oui, on fait se rencontrer des voix lyriques, mais on a des voix lyriques qui chantent du Paul McCartney, on a des ensembles baroques, on a des voix mécaniques. Cette année, on fait venir une symphonie pour klaxonner et essuie-glace. On a des voix intergénérationnelles, puisqu'on a travaillé sur des ateliers sur l'année entre une classe de 4e et le collège. On a une résidence de création qui est ouverte au public depuis 3 ans, en fait, qui montre le travail invisible, mais on en avait déjà parlé, de la création d'un spectacle, puisqu'en fait, ça ne se manque pas en une journée. On a des gens plus ou moins connus. On a, tu vois, les chanteurs de Sins Emilia qui viennent, Mike Eriquet. Et on a aussi des voix locales telles que Sophie Charby qui va ouvrir la semaine. Y a une volonté de pluralité pour que chacun puisse trouver quelque chose qui lui plaise dans ce festival qui est un objet d'appartenance collective sur le territoire.
C'est sa 23e édition, donc oui. Déjà une belle route accomplie. Dieulefi s'était révélé propice à ce festival dédié à la voix. Et est-ce que des lieux se prêtaient justement à cette proposition pour son acoustique notamment ?
Alors Dieulefi, déjà les lieux ont changé depuis sa création, puisqu'au départ on a commencé à travailler dans la salle des fêtes et dans les différentes églises de la ville. Maintenant, la salle des fêtes s'est transformée en halle. Pendant le temps des travaux, on a travaillé sous chapiteau. Donc oui, on a changé d'acoustique dans la salle principale et on a toujours l'église Saint-Pierre qui est un espace magnifique pour l'expression des voix et des instruments. C'est une très belle petite église dans le centre ancien qui est connue pour son acoustique.
Au programme des concerts, évidemment, et puis des spectacles aussi, on détaillera un peu ce qui est proposé. Il y en aura aussi pour le jeune public, du théâtre et des rencontres, la radio également, et du cabaret. Tout cela sur cette semaine à partir du 2, avec jeudi donc en ouverture, un cabaret chanson tandem. Qui est proposé par Sophie Charby, comme vous le disiez tout à l'heure, et Richard Posselt, un duo qui propose des créations qui sont de quel ordre ?
Alors là, pour le coup, c'est des voix plurielles. Sophie, elle travaille avec énormément d'influence. C'est de la chanson française, mais ça passe par le swing, le maloya. Et c'est une très très jolie écriture. L'accompagnement à l'accordéon est extrêmement fin. Et ça fait une jolie soirée d'ouverture sur le thème aussi. Enfin, je pense que ça fait du bien à tout le monde d'écouter un petit peu des choses apaisées autour de l'amour. Voilà. Après, on a l'inauguration à 18h qui sera présentée par Vincent Roca. À l'issue de l'inauguration, on a un pot avec une fanfare qui est une fanfare bénévole et locale, qui s'appelle La Fanfoireuse. Et d'ailleurs, on est en partenariat avec la Maison de la Clairette et le JVR qui nous soutiennent depuis des années et qui viennent participer à l'inauguration.
Ça, c'est pour la première journée.
Oui. Hein.
Autour de ça, il y a des propositions de se rafraîchir, de se restaurer également.
Oui,
il y a... comme pour toute la semaine à venir, j'imagine.
Oui, on a un stand qui fait des crêpes sucrées et qui propose des petites assiettes avec des produits locaux. On fait aussi de la vente de picodons avec du vin, enfin, tu vois. Et après, il y a un bar avec, pareil, des petits produits locaux et... Et voilà, il y a possibilité de se restaurer. Et il y a surtout les ateliers de création plastique à partir de 17h tous les jours. Et cette année, le thème, tu sais, tous les ans, on travaille avec une thématique principale. Cette année, on a travaillé avec les comédiens et musiciens du festival sur la rencontre du vivant et de la machine. Sur est-ce qu'il faut avoir peur ou non de ces intelligences artificielles? Est-ce qu'il faut... comment on fait attention à ne pas protocoliser, nous, les humains, nos émotions, etc. Quels sont les espaces de rencontre possibles entre le vivant et la machine? Et l'atelier de création plastique travaille également là-dessus. Tout au long de la semaine, on va construire un grand module avec des pièces de récupération issues d'ordinateurs, etc. Et aussi d'éléments végétaux. Ensuite, on le mettra sur une sorte de parapluie géant et on le rétroéclairera pour avoir... une forme hybride vivant-machine.
La question sur l'intelligence artificielle, c'est quand même un sujet de préoccupation. Hein, en fonction du titre de ces échanges proposés, qu'en est-il justement de cette inquiétude de l'intelligence artificielle? J'en parlais tout à l'heure avec un festival de photographie où aussi il y a un réel impact hein, sur l'image. Est-ce que la voix aussi on a entendu ces dernières semaines des personnes qui ont eu leur voix détournée par l'intelligence artificielle à destination de messages publicitaires notamment ou de fausses actualités. Qu'en est-il pour vous dans ces réflexions?
Alors nous, on se pose des questions. D'ailleurs, si tu lis l'édito qu'on ne va pas lire là à la radio, mais tu vas t'apercevoir qu'en fait, pour la rédaction de cet édito, j'ai tapé tout bêtement sur chatbot GPT. Il est très poli, il te demande comment il peut être utile et je lui ai demandé écrire un édito sur le vivant et la machine pour éclater le Festival de la Voix au Pays de Dulphie. Il lui a fallu 4 secondes pour me faire 2 propositions parce qu'il y a 2 IA croisées. C'est hallucinant. Les algorithmes arrivent quand même vraiment à produire des choses qui sur le fond et la forme arrivent à faire une vraie mise en perspective qui est hyper intéressante, etc. La seule chose, c'est de savoir se dire comment... Enfin, moi, je ne pense pas qu'il faille qu'on ait peur de ces outils, parce que ce sont des machines et qu'elles sont là pour nous aider. En revanche, comment on fait pour ne pas être grand remplacé par une machine pour plus de productivité? Et surtout, comment on fait pour ne pas oublier ce qui fait sens et ce qui, en substance, existe, c'est-à-dire la base humaine? Parce que sans l'humain qui fait la proposition de chatbot, il ne fonctionne pas. Et si tu fais ta proposition, elle est motivée par quelque chose que la machine ne réfléchit pas elle-même. Donc, je ne pense pas qu'il faille en avoir peur. En revanche, il faut savoir border l'utilisation de ces outils. Et tu sais, comme il y a des lois bioéthiques en santé, peut-être qu'on pourrait essayer d'envisager d'encadrer certains usages. Mais c'est une question que je pose, ce n'est pas une affirmation.
On trouvera peut-être des réponses pendant ce festival. Tout au long de ce festival, il y a une résidence de création. Hein, vous en avez parlé un peu. Ça sera à la Verrière Morin et à la Grotte Morin. C'est ouvert au public. Alors, qu'est-ce qui est proposé?
Eh bien, justement, le Chant du Cygne, c'est une résidence de création qui est ouverte au public depuis 2 ans sur le festival. Cet espace de création est composé d'énormément de mécanisation du langage, d'idées un petit peu folles, justement, qui sont entre le vivant et la machine, mais qui partent, là encore, en substance, ça part de vraies questions. Questionnement d'usage du langage par le comédien Sylvain Fontimpe qui, petit, lui, était dyslexique. Là, on parle d'objets qui sont un piano à écrire, écrire des mots, et d'un afficheur à palette qui va traduire une pensée, de jeux de mots qui sont amenés par Eve Weiss, qui elle est la comédienne. On a un pianiste qui est fabuleux, et Jérémy Gaston-Raoult qui est le créateur de tous les objets un peu de cet espace de création entre théâtre et musique, et surtout musicalité du langage. Là, sur la semaine, il y a 2 espaces qui vont être ouverts au public sur leur phase de travail qui permet de voir effectivement comment un spectacle se construit. Et là, ce qui est intéressant, c'est que les habitués du festival sont déjà venus l'année dernière. Ils voient vraiment une sorte de work in progress sur la semaine. Donc, on a ouvert le mardi. Le mercredi, on a une masterclass à 18h où là, c'est Jérémy et Sylvain qui vont répondre justement aux questions et de la création et de la mise en œuvre technique. Et ensuite, on aura jeudi une petite pastille, donc c'est un abstract. Et le dimanche, on aura une restitution dans une grotte prévue à cet effet.
Il y fera frais, j'imagine.
On espère.
Le théâtre, toujours, hein, avec cette symphonie pour klaxon et essuie-glace, ça c'est proposé par Jérôme Rouget.
Oui, la Martingale. La symphonie pour klaxon et essuie-glace, c'est plutôt un projet de rassemblement. Tu sais, ça fait 30 ans que sur Dulfi, il y avait un rallye qui s'appelait le rallye du Picodon. Ce rallye se tient sur la semaine du festival. Le rallye a lieu le week-end où nous, on a la semaine du festival. Et il y a 3 ans, avec l'équipe du rallye, on se rencontre parce que plusieurs fois, certains ont essayé d'opposer notre travail et le leur, qui n'a rien à voir et qui n'empiète pas. Et au cours d'une discussion, on se dit pourquoi on n'essaierait pas, vu qu'on est sur le même territoire en même temps, de trouver un spectacle qui fasse le lien entre les deux. Donc j'ai cherché, et j'ai trouvé cette symphonie pour klaxon et essuie-glace. Bon, il s'est avéré que là, le rallye du Picodon déménage dans l'agglomération voisine, à Poët-Laval. Donc on a maintenu cette proposition. Il y a 8 klaxonneurs amateurs du territoire qui vont travailler pendant 3 jours avec l'équipe de la Martingale sur des vrais codes de la symphonie. On équipe leur petite voiture d'un klaxon accordé et pendant 3 jours, ils travaillent ensemble pour réaliser une petite symphonie d'une petite demi-heure autour de la question et des véhicules et de l'écologie. Mais c'est véritablement les codes de la symphonie classique qui sont présentés par Jérôme Rouget, qui se fait passer pour un présentateur de France Musique. L'idée là-dedans, c'est aussi à des endroits où, tu vois, une agglo se divise sur la question de l'écologie et de l'usage des machines, des véhicules, etc., de faire travailler des gens ensemble quand ils n'ont pas forcément les mêmes idées de départ. Donc, on va avoir des gens qui vont klaxonner avec une voiture de rallye, un monsieur qui va klaxonner avec son tracteur parce qu'il travaille dans les champs, et aussi des gens qui sont plus penchés sur la question de la décroissance et de l'écologie. Je trouve intéressant qu'un festival permette justement ces espaces-là de rencontre et de médiation. C'est la mission d'un festival de faire se rencontrer les gens.
Ce festival est dense, hein, en programmation, avec des propositions à partir de mardi de 3 à 4 rendez-vous. On peut citer donc cette écriture intergénérationnelle qui aura lieu l'après-midi. Ça sera aussi avec de la lecture chantée. Donc ça, c'est proposé par Lucas Lemoff et Mathieu Mallet.
Alors Mathieu et Lucas, c'est les musiciens et chanteurs comédiens du Piano Bar le soir. Donc après tous les spectacles du soir, on peut les retrouver en buvant un verre, etc. Et il y a une proposition de... C'est des vrais jukebox, les deux. Il y a des propositions de karaoké ou de « Je commande ma chanson ». Et c'est eux qui accompagnent toutes les fins de soirée. Cet atelier... Il n'y a pas d'âge d'écriture intergénérationnelle. C'est le fruit du travail d'une année. C'est pareil, ça, c'est encore un work in progress et ce sera en construction pour l'année prochaine. Cette année, on est allé voir la classe de 4e B du collège de Dulphy et aussi les personnes âgées à la maison de retraite, les Échiroux et à l'hôpital local. Et on leur a demandé de répondre à une question qui était « Quelle est la chanson qui a le plus marqué votre vie et pourquoi ?» L'idée là-dedans, c'était de se dire que de partir des comiques troupiers, des chansons du début du siècle jusqu'à maintenant, en fait, les thèmes abordés par la chanson française sont globalement un petit peu toujours les mêmes. C'est l'amour, le vivre ensemble, des luttes sociales. Alors, à part quelques rares exceptions comme des musiques comme Vald ou vraiment des gros mouvements punk, où là on parle d'effondrement, de déconstruction. La chanson française du début du siècle à aujourd'hui mène et apporte les mêmes images et les mêmes espoirs. Et je trouvais ça intéressant d'aller présenter ça à des gens qui ont 80 ans d'écart, en fait, ou 70 ans d'écart, et amener Dario Moreno et Charles Trenet au collège. C'est aussi rigolo que d'amener Aya Nakamura et Mika à la maison de retraite. Là, du coup, l'idée sur ces stages-là, donc il y a eu deux échanges. Les collégiens ont écrit aux personnes âgées, les personnes âgées ont écrit aux collégiens, et là, il y a eu les réponses qui se sont formulées. On fait la dernière réponse des personnes âgées demain. Ce qui va se passer là, c'est qu'on va amener ces deux musiciens, on va amener les propositions des jeunes à la maison de retraite, les propositions de la maison de retraite aux jeunes. On fera un petit déjeuner le samedi autour de ces propositions-là. L'idée, c'est de chanter Fréhel sur un air de Joule, par exemple. Et c'est de faire une sorte de mix un peu puzzle de toutes les productions qu'on a eues. Et à terme, l'année prochaine, on en aura un objet, en intégrant les tranches de vie qui nous ont été cédées, un objet spectacle, parce qu'il va falloir qu'on fasse l'écriture du projet.
À la suite, il y a les promptus d'Olivier.
Alors, les impromptus d'Olivier, c'est tous les ans. Olivier, il fait partie de l'équipe des comédiens du festival avec Eve Weiss, Sylvain Fontimpe, Gabriel, Vincent Roca. Cette année, c'est avec eux qu'on a travaillé essentiellement sur les thèmes du vivant et la machine. Et il y a Isaac Asimov, tu sais, qui a écrit le protocole des robots. Là, sur les trois impromptus d'Olivier à la librairie Sohé Gambade, on va traverser l'œuvre d'Asimov et surtout la question du vivant, de la machine et de la protocolisation des robots dans notre société.
Je ne savais pas qu'il avait écrit autant d'ouvrages.
C'est incroyable. Il y a plein de nouvelles de Asimov. Et puis, il n'y a pas que les robots.
J'en ai lu une il y a quelques années. C'est très aux élections américaines, où il y avait un choix à faire auprès d'un électeur.
Ah, comment il s'appelle ?
C'est un tout petit livre, très court. Et le choix consistait à savoir s'il prenait un ou deux morceaux de sucre pour décider du président des États-Unis. C'est un peu caricatural, mais c'était l'idée.
Oui, mais tu vois, dans toute son écriture, c'est ces auteurs qui sont nés en 1920 et qui ont commencé vraiment à écrire en 40, etc., qui étaient au départ décrits comme des auteurs de science-fiction. Et aujourd'hui, tu prends lui, tu prends Orwell, tu prends... et tu t'aperçois qu'en fait, vraiment, vraiment, la science-fiction...
On y est.
on y est arrivé. Et après, ben voilà, et c'était pas prémonitoire, parce qu'il y a quand même des petits décalages. Mais ouais, et en même temps, il y avait quand même, dans cette science-fiction et dans cette construction fictive, la conscience des dangers sociétaux qui était attenant. Le protocole des robots, c'est typiquement ça.
Le soir même, toujours ce mardi 3 septembre, Medidix à 20h. Mm-hmm. Dans la continuité, il y aura Mike et Ricky de Sensimilia, mm-hmm. comme tu disais en début d'émission. Alors, une soirée dédiée à la chanson, à la scène.
Une soirée dédiée aux mots, surtout. Alors, la première partie de Medidix, elle ne va pas durer très longtemps. C'est un set d'une 25-30 minutes. Parce que, comme toujours, tu sais, on a une petite économie éclat. Donc, mais par contre, ce qui nous importe, c'est de, quand on a des têtes d'affiche, ce qui est le cas de Mike et Ricky de Sensimilia, qui ne connaît pas tout le bonheur du monde, si t'es allé à un mariage ou à une bar mitzvah sur les 20 dernières années, tu as entendu cette chanson. L'idée, c'est de donner une lisibilité à des jeunes artistes, enfin, ou à des artistes locaux. À des endroits où on n'a pas vraiment d'autres possibilités coup de pouce. C'est pour ça qu'on fait des soirées de spectacle. Le spectacle de Mike et Ricky, c'est vraiment une forme de théâtre et musique. Et c'est une belle histoire d'amitié au plateau. En fait, il se joue entre théâtre et musique toutes les anecdotes de scène de ces deux comparses qui se sont connus quand ils étaient tout petits. Ils étaient à l'école ensemble, ils ont fait du foot ensemble, les 400 coups ensemble, et ils ont fait surtout de la musique ensemble et à travers le monde. Et ils racontent ça avec une vraie envie de partage et... Ils ont fait des scènes extraordinaires et tout. Et là, aujourd'hui, ils ont envie à deux de rencontrer de plus près leur public et d'aller leur raconter leur histoire. Et ce qui est assez chouette dans ce spectacle, c'est même si tu ne connais pas leur travail, même si tu ne sais pas qui ils sont, y a un truc hyper chaleureux. Où en fait on te raconte une histoire de vie et c'est pareil, il y a cette petite tranche de vie qu'on te donne qui est un petit peu magique. Il y a la question de leurs engagements politiques qui est importante, c'est drôle, c'est musical et c'est vraiment sympa.
La voix a besoin de lecture hein, pour s'exprimer, pour mm-hmm. trouver ce qu'elle a à dire. Et pour cela, mercredi 4 à partir de 10h, il y aura La Cabane, c'est une roulotte de mômes et merveilles où on proposera aux enfants, justement, des livres, des lectures libres. On peut parler un peu de cette cabane.
Alors, la cabane de livres, elle a été créée par une association qui s'appelle Moms et Merveilles. En gros, c'est une petite bibliothèque ambulante à destination des enfants. Donc là, sur toute la semaine du festival, elle est sur le parvis de la halle à 17h avec les ateliers de création de plastique de Cindy dont je te parlais tout à l'heure. Et le festival il se passe sur l'agglo, on trouve que le mercredi, c'est sympa d'aller dans le parc de la Bégude avec cette roulotte de livres. On fait des lectures pour les enfants. Les enfants choisissent les livres et on a des adultes qui lisent pour eux. En même temps qu'à côté, ça travaille cette année, le Vivons la Machine. Et cette association, elle a réalisé un très très joli projet parce que ils renouvellent régulièrement les stocks de livres, ils les prêtent à d'autres associations pour les événements, etc. Et c'est un super objet de médiation et sociale et culturelle.
Il y aura l'atelier Cindy Lowe qui propose le Vivons la Machine. Mm-hmm. Qu'est-ce que c'est apport par rapport au festival?
Parce qu'en fait, moi, je pense que la création plastique, c'est aussi une forme d'art et c'est une forme d'expression. Alors après, c'est peut-être un capillotracté de dire que c'est une voie comme une autre. Mais en tout cas, la voie de la création plastique, moi, je la trouve importante, en fait. Il y a des gens qui vont être sensibles à la lecture, d'autres à l'écriture, d'autres à de la chanson, d'autres à la mise en en fabrication de quelque chose. Et ça aussi, c'est ce qui fait que ben, un projet, il est pluriel. C'est qu'on est tous différents et il y a des gens qui ont besoin de faire, de toucher, d'appréhender pour s'approprier. Et je trouve que les ateliers de création plastique sont hyper importants, justement.
Vous écoutez l'interview du jour sur RDIWA.
La radio du Diwa.
107.5
101.7
FM.
Mercredi 4 septembre, il y a beaucoup d'ateliers, hein, c'est dédié aussi aux enfants, hein, pour découvrir un peu tout cet univers, avec donc l'atelier théâtre, le jeu verbal, ça sera proposé par
Olivier Bruda,
qu'on retrouvera toute cette semaine,
tout au long de la semaine,
dans divers rendez-vous. Et puis en soirée à 20h30, dans la halle, il y aura l'heure bleue, un trio vocal, avec quatre femmes en photographie.
C'est un trio vocal plus une pianiste.
Voilà,
c'est pour
c'est
ça qu'elles sont quatre sur la photo.
Très bien. Ça, c'est un aspect de la voix. Quel registre proposeront-elles ?
Eh bien, ce trio L'Heure Bleue, on l'a déjà accueilli avec leur spectacle précédent. Et tu sais, le mercredi, en fait, on met la salle en configuration cabaret. Ça veut dire qu'on enlève les chaises, on met des petites tables, on sert un verre à boire aux gens et on fait une petite soirée, petite jauge conviviale. Et on présente en fait des formes de spectacle un peu hybride, un peu à des endroits qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Cette soirée cabaret lyrique, c'est trois chanteuses franco-américaines qui passent d'un répertoire qui va de Bizet à Paul McCartney, en passant par Rossini et en revenant à Paul Naref. Pour moi, important de casser les espaces aussi. On a toujours l'habitude de mettre les voix lyriques dans des églises ou dans des espaces dédiés. Je trouve important de mettre des voix lyriques dans une grande salle de spectacle et de mettre, par exemple, des voix rock ou folk dans une église. Ça casse un peu les habitudes de tout le monde et les codes. Et c'est important aussi que des gens qui ne se sentent pas légitimes à passer la porte d'une église parce qu'ils se disent « Ah, le chant lyrique, c'est codifié, c'est pas pour nous », de dire « En fait, on va voir ça dans un espace cabaret, en buvant un verre, en détente. On a le droit d'applaudir entre les morceaux. On a le droit d'aimer, on a le droit de pas aimer. » En fait, c'est aussi ça, la mission d'un festival.
Jeudi 5 septembre, en journée, il y aura l'orgue de Barbarie opéré par Monsieur Paul. Ça, c'est en préambule. Hein, avec, c'est réservé aux scolaires également. Donc, il visitera des écoles, je crois.
Oui, et ben pareil, tu vois, toujours sur la question du vivant et de la machine. Ce monsieur, il est passionné d'orgue de Barbarie depuis qu'il est tout petit. Et il fait fabriquer ses cartons. Et là, l'idée, c'est qu'il aille dans les écoles pour montrer sa machine à musique. Tu vois, il y a lui qui est particulièrement habité par la passion de cet objet et aussi il a une gouaille, il a une vraie générosité et il va présenter, il va ouvrir sa machine, montrer les cartons aux enfants, leur faire tourner la manivelle. Et ben là, on est au cœur du sujet entre le vivant et la machine. Donc lui, oui, il va aller, c'est sous réserve là, puisque tu sais, c'est toujours les vacances, donc on ne sait pas encore quelles écoles. Mais normalement, il ira à Poitlaval, à la Bégude, à Vesque, à Bordeaux, dans les classes de maternelle à Dulphy. Et après, il jouera aussi sur les places de village, accompagné de comédiens de la Compagnie des Mots aussi.
En soirée, à 20h30, il y aura Les Garçons et Guillaume à table de Guillaume Gallienne.
Alors, ce spectacle, pour te dire la vérité, moi j'ai du mal avec les reprises, les choses comme ça, etc. Quand je suis allée le voir à Avignon, j'y suis allée un peu sur la réserve. Et en fait, Jean-François, le comédien qui reprend non pas le rôle, mais les rôles, puisqu'en fait, il est seul sur scène et qu'il incarne la totalité des personnages, arrive à faire oublier Gallienne. Parce que il récupère l'histoire, il la fait sienne et tu oublies le film quand tu vas voir ça. Par contre, tu ris autant. L'interprétation est d'une finesse incroyable. Il incarne, lui, la mère, la grand-mère, le père. Mais c'est à mourir de rire, vraiment, vraiment. Et c'est vraiment une belle adaptation cinéma-théâtre.
Le vendredi 6, journée commence plus tôt, à 9h, avec un petit déjeuner et qui proposera Les Vivants et les Machines en littérature. Ça, c'est encore un rendez-vous avec Eve Weiss et toute...
Olivier Bronat et Bruno Ducré, les mêmes qu'à l'hôpital la veille. La question de ce petit déjeuner, l'angle qu'on a décidé d'aborder sur celui-ci, c'est le vivant, la machine dans la littérature. Donc on a parlé de Asimov, du protocole des robots, on a parlé d'Orwell, mais tu vois, on va parler aussi de la personnification des objets. Donc on a repris les poètes du début du 19e, on a repris, tu vois, par exemple... Dans l'assommoir, l'alambic, cet objet qui devient humain dans la description, on est allé chercher pas mal de choses qui sont pareil, parcourent les époques et montrent que les machines ont toujours fait un petit peu peur.
On retrouvera toujours ce vendredi l'atelier proposé par Vincent Roca sur les homophonies douces.
Là, c'est Vincent, c'est un habitué du festival. Cette année, il propose aux gens de transmettre son art, son travail. Vincent, son métier globalement, c'est de jouer avec les mots, de fabriquer des jeux de mots à base d'images, de textes, etc. Et ben là, cette année, il est sur un atelier d'une heure. Il va avec un groupe de personnes fabriquer des jeux de mots, du texte, etc. C'est comment toi, tu peux devenir quelqu'un qui va créer, construire des jeux de mots, des homophonies.
Toujours dans cette journée, Bruno Ducré aussi.
Donc Bruno Ducré à l'église Saint-Pierre à 18h, c'est un solo violoncelle-voix. C'est un inclassable. Et franchement, c'est intéressant d'aller voir ça parce que tu passes... Du punk noise à la voix tradie française, le gars fait du violoncelle avec des petites cuillères. C'est un objet particulier, vraiment. Et par contre, c'est incroyable de talent.
Et je reviens donc sur Stène et Chardon.
À ta soirée de spectacle de Stène et Chardon sur les dossiers secrets de la SACEM. Oui, c'est une soirée d'humour. Donc là, la première partie, c'est de l'humour musical, vraiment. Donc tu as deux enquêteurs, en fait, qui se posent des questions vraiment sur des questions débiles sur les musiques et qui se les réapproprient. C'est Carlos était-il le chanteur d'Oasis, et Goldman, Sax, enfin bon... Et tout ça amené en musique. Ensuite, Jérôme Rouget, La Martingale, c'est pourquoi les poules préfèrent être élevées en batterie. C'est pareil, c'est de l'humour absurde, c'est la cohérence entre les deux spectacles sur la soirée.
Et on a la réponse à la fin du spectacle.
Et bah, tu repars avec, en tout cas, pas mal de cordes, de nouveaux éléments. ce qui est assez fort dans ce spectacle-là, c'est qu'on aborde vraiment avec beaucoup d'humour la question de l'écologie, de l'agriculture et de la condition paysanne, de l'agriculture intensive, de qu'est-ce qu'on met dans nos assiettes, de comment on décide de croître, de décroître, d'être des machines à produire ou pas. Et tout ça avec vraiment énormément d'humour. Mais tu ressors de là quand même en te posant des vraies questions. Et ça, c'est pareil, je trouve que c'est intéressant d'amener des spectacles drôles, mais qui te permettent de questionner réellement notre société dans son fonctionnement.
C'est un programme qui se densifie hein, au fur et à mesure de l'avancée. Et donc, ce samedi 7, il y aura toujours ce petit déjeuner. Il y aura aussi, à partir de 11h, la compagnie des mots, qui propose des lectures, une symphonie qui reviendra avec ce festival de cette symphonie pour klaxon et essuie-glace, l'atelier Cindy Lowe qu'on retrouve de nouveau. En fait, le public, il ne peut pas rater quoi que ce soit pour cette semaine.
Eh ben, le public peut peut rater des choses, mais après, c'est éclectique.
Oui.
Donc voilà, après 18h, c'est pareil, tu as un ensemble baroque qui n'a rien à voir avec la symphonie pour klaxonner et essuie-glace qui se jouera à 19h30 aussi à l'arrivée des spéciales du rallye à Poitlaval. C'est ce spectacle dont on parlait tout à l'heure qui est participatif avec les gens du territoire et leurs véhicules. Et c'est le même monsieur que pourquoi les poules préfèrent-elles être élevées en batterie.
Il y aura aussi un moment de musique et de chant baroque. Ça sera à 18h. Ça sera à l'église Saint-Pierre.
C'est une très belle soprane. Elle s'appelle Marie-Frédérique Giraud, qui est connue dans le milieu du chant lyrique. Elle travaille pour plusieurs ensembles. Alice Baudouin fait de la flûte à bec ancienne et de la flûte ancienne baroque et du clavecin. Et Renaud Charles fait du traverso. Après, les. Le répertoire abordé, c'est assez classique dans les ensembles baroques. Tu vois, c'est Lully, Blavet, Couperin. C'est un très très bel ensemble, mais c'est ce qu'on attend d'un ensemble baroque tradit, quoi.
Il y aura à partir de 20h le El Sexteto Sonero. C'est de la musique cubaine. Ça sera à la halle toujours. Donc là, c'est une formation qui proposera.
Donc là, il y aura deux chanteurs dans ce sexteto. Et c'est un groupe qu'on est particulièrement heureux d'accueillir parce qu'en fait, ils se composent exprès pour le festival. Donc c'est des musiciens qui sont déjà venus, qui étaient désireux de revenir, qui ont décidé de monter ce projet. Pour venir faire la première partie de la soirée musique du monde chez nous. C'est tous des musiciens de musique afro-latine et qui ont l'habitude de travailler et de jouer ensemble et qui ont dit « Ah ben nous, en fait, on aime ce festival, on veut revenir jouer. » Et pif, on monte un truc. Et donc là, c'est un ensemble que personne n'aura jamais vu.
À la suite, Souris Diabaté qui propose Wally.
Wally, c'est le titre de leur album. Souris Diabaté, c'est une sommité vraiment dans le monde du balafon. C'est un monsieur qui est connu, reconnu à l'international comme étant une sommité du balafon. Donc là, ils viennent à 5 pour proposer leur spectacle qui est accompagné avec des percussions ouest-africaines et clavier basse, un ensemble qui est vraiment, vraiment, vraiment super cool. Enfin, vraiment, vraiment super chouette. Enfin, c'est musique africaine hyper bien faite, c'est des jolis ancrages.
Dimanche 8 septembre, dernière journée de ce festival qui commencera à 9h avec ce petit déjeuner toujours. À la suite, la cabane à 10h30, la restitution de Le Vivant et la Machine, qui sera à 16h, toujours au parvis de la Halle. Et puis à 17h, encore une restitution des Chants du Cygne, dont on a déjà parlé. Et en soirée, à partir de 18h, il y aura le duo Chanterelle à l'église Saint-Pierre, entre guitare classique et soprano franco-américaine. On peut nommer donc Aviva Timonier et Hervé Lecam.
Je peux revenir sur un truc parce qu'on a oublié de le mettre dans le programme. Le samedi après-midi, aux HLM de Dieulefi, il y aura un atelier de création plastique, justement, avec aussi une proposition de maquillage pour les enfants. Donc, et cette proposition de maquillage pour les enfants vient après le petit déjeuner du dimanche matin sur la question de l'intelligence artificielle, justement. Il y aura donc à partir de 10h30 sur le parvis de la halle, la petite cabane de livres, des ateliers de maquillage pour les petits, ateliers de création. Voilà. Le dimanche, on met les tapis sur le parvis de la halle et tout le monde passe, tout le monde fait. Enfin, tu vois, c'est tranquillement le matin et les gens se rencontrent, discutent, lisent.
Un atelier de maquillage proposé par Maë, hein, je crois.
Ouais, c'est Maë et Lise qui feront les maquillages pour les enfants.
La soirée arrive avec ce final qui sera donc Afronautes à partir de 19h30. C'est carton plein, c'est la compagnie qui proposera ce rendez-vous avec les Afronautes. Donc, qu'est-ce que sera proposé à ce moment-là aux spectateurs ?
Alors, la compagnie Carton Plein, c'est une compagnie de magie. C'est Pierre-Yves Monchaud qui fera la première partie des Afronautes. Il fera un tour... il fait de la magie close-up, je ne sais pas si tu vois ce que c'est.
Si.
C'est de la magie de proximité,
j'ai déjà
etc.
Vu. C'est impressionnant.
Et, il est impressionnant. Lui aussi, c'est un habitué du festival maintenant, Pierre-Yves. C'est vraiment quelqu'un qui vient tous les ans et qui est un ami du projet. Donc, il fera la première partie des Afronautes, puisque, comme je te disais, le dimanche, c'est festif. On est sur le parvis, les gens observent, participent, rient. Et on trouvait que c'était intéressant qu'il soit là, à ce moment-là. Et Afronautes, c'est un groupe que j'affectionne tout particulièrement parce qu'en fait, il rassemble amateurs et professionnels. Il y a autour de projets qui sont pareils, aussi cosmopolites que les participants au projet. Tu as de l'afrobeat, de l'ethio-jazz, de l'afro-jazz. Et c'est un ensemble qui, autour de 5 professionnels, fait travailler 15 amateurs. Et c'est hyper dansant, c'est hyper festif. Et c'est plein de couleurs, c'est pluriel. Et c'est gratuit, c'est sur le parvis de la halle et c'est ouvert à tout le monde. Voilà.
Voilà, le festival aura duré donc, cette semaine-là. Et... qu'est-ce qu'on peut trouver également autour de ce qui est proposé ? Il y a le village en lui-même, mais est-ce qu'il y a un off qui existe ?
Ah, il y a pas mal de... Ah ben, nous, notre gros off et nos temps de off, c'est justement les discussions qui se font après les spectacles. Et justement, ce piano-bar karaoké dont on parlait, c'est l'occasion de rencontres entre les artistes, le public, les bénévoles. On a la réputation justement d'être un festival assez familial et où tu vois toutes ces choses-là transitent, les gens discutent. Et ce qui est assez chouette, c'est de voir qu'au fil du temps, déjà on a des artistes qui nous rappellent pour nous dire « Ah mais on veut revenir » et en fait on est d'accord de créer des projets pour venir chez vous parce que c'est cool. Et du coup, on a des artistes qui se disent « Ah, mais en fait, qui se rencontrent sur le festival et qui, l'année d'après, viennent avec un projet qu'ils ont construit ensemble. » C'est ce qui s'est passé avec Olivier Broda et la Litanie des Cimes. C'est ce qui se passe avec Mathieu et Sylvain. C'est ce qui se passe... Tu vois, il y a plein d'endroits de rencontres qui font que tout ça, c'est ces rencontres qui font qu'en fait le festival se pérennise dans le temps. Et ça, c'est hyper chouette que justement il puisse y avoir des retours du public, des rencontres avec les artistes. Et ça se fait globalement après les spectacles.
Et puis il y a le soutien qui permet aussi de perdurer. On peut parler des collectivités, des institutions, mais aussi les commerçants qui soutiennent cet événement, je pense.
Oui, nous on a beaucoup de, on a du mécénat du mécénat privé des commerces locaux. On a toujours le jeu dans les vitrines, tu sais, comme tous les ans cette année, là, l'idée c'est de trouver qui est qui. C'est des petites photos où il faudra retrouver qui se cache dans la vitrine. Dans les soutiens, oui, évidemment, on a les partenaires institutionnels, on a le mécénat, mais surtout, on a le soutien de privé à privé, parce qu'on maintient, tu sais, la billetterie solidaire. Sur une cinquantaine de propositions sur la semaine, il y en a 13 de payantes, sinon toutes les autres sont gratuites, et tous les spectacles sont accessibles à partir de 5 euros. On a un principe de billetterie qui s'appelle la billetterie merci. On donne un tarif indicatif, c'est-à-dire que on va te dire une soirée de spectacle, c'est 25 euros parce que c'est le prix d'équilibre sur lequel on s'en sort. Mais par contre, tu peux prendre ta place à 5, à 6, à 7, à 10 ou à 30, à 50 si tu veux. Depuis qu'on a mis la billetterie solidaire en place, en fait, on a à peu près les mêmes équilibres que quand on avait du plein tarif et du tarif réduit. Et ça, tu vois, c'est la contribution du public au public. C'est un très joli mécénat, moi, je trouve.
Camille Audergon, merci en tout cas d'être venue depuis Dieu le fit en moto pour nous parler de cette programmation que l'on peut retrouver aussi sur le site du festival. Donc www.eclat-du6dieulefit.com. Et là, on peut découvrir cette programmation qu'on peut aussi trouver dans d'autres offices de tourisme également.
Oui, on va pouvoir la trouver dans les offices de tourisme de Cré, de Montélimar, d'Audi. Vous pouvez aussi réserver au 07 67 45 15 30. Et un festival de l'envergure d'une note ne pourrait pas exister si on n'avait pas un aussi gros engagement bénévole. On a 60 personnes qui travaillent sur ce projet et qui sont là et qui font énormément de choses. Donc voilà, ça... Tu vois, on parlait des mécénats, etc. Mais le mécénat humain, c'est le plus grand sur ce genre de projet.
Ouais. Il y a aussi, pour ceux qui souhaitent séjourner toute la semaine, il y a des possibilités de camper, d'être hébergé aussi. Il y a des hôtels, j'imagine, enfin, des lieux pour pouvoir y passer cette semaine-là.
Oui. Alors, sur Dieulefit et alentour, il y a pas mal de camping et il y a quelques hôtels aussi.
Camille Audergon, bonne soirée.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.